Bonjour à ceux qui nous visitent. Je veux commencer par remercier Jérôme. Il est où? Il est là-bas. Continue tes peintures. Regardez le tableau. Ça va vous parler. Ah, il faut que je le lève. Hop. Je vais avoir du mal à remarquer comme ça, vous ne me verrez pas. Hop. Il fait des jolies chaussures. Ils sont prêtes à être chaussées. Ah, pardon. Il savait sur ce sur quoi j'allais partager ce matin. Merci Jérôme. Je voudrais remercier aussi la parole qui a été lue là, de Jésus sur son cheval. Qu'est-ce qu'il fait Jésus en ce moment? Est-ce que vous pensez qu'il boit le café avec le Père? Ou est-ce qu'il est sur son cheval et il parcourt la terre? Merci pour ce texte, parce que je pense qu'il illustre aussi, il introduit bien ce que je vais partager ce matin. J'aimerais vous demander quelque chose, alors ceux qui peuvent et qui n'ont pas trop mal au dos pour se baisser, entre guillemets, mais sinon vous avez été guéri pendant le temps de prière. Est-ce que vous pouvez enlever au moins une chaussure? Bon, je vous rassure, on ne fait pas tout le temps ça à l'église. Mais on aime bien les images, alors c'est souvent ce qui marque. Alors je vous demande d'enlever au moins une chaussure. Je précise que si ça sent un peu le camembert un peu fort, ce n'est pas moi. Hein. Ok. On peut envoyer le PowerPoint. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez prendre dans Exode 17. Sinon, j'ai affiché les versets. Voilà, donc le titre, c'est « Mettez vos chaussures ». Mais ne la remettez pas encore, on la remettra plus tard. Non, c'est super, Jérôme, merci, ça illustre parfaitement. Je n'avais pas besoin de chercher des images sur Internet. Hop, on peut envoyer le texte. Donc c'est une histoire qu'on connaît très très bien, on va la lire et vous allez voir. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Le bâton de Dieu. Josué, vous savez, c'est le bâton avec lequel Moïse a fait tous les miracles en face de Pharaon. C'est le même avec lequel il a ouvert la mer Rouge. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. La suite. Ça marche pas? Elle est où? Là-bas? C'est ça, Pierre? Sur le côté. Là. Ça y est. Bon, à l'époque, ils avaient des rouleaux, donc ça prenait aussi pas mal de temps pour les dérouler. Ah, voilà. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Amen. On va commencer par prier. Seigneur, je veux te demander que ta parole, Seigneur, change nos cœurs, Seigneur, et qu'elle nous donne une bonne vision, Seigneur, de ce que tu veux nous dire, de ce que tu nous appelles à faire, Seigneur, et de qui tu nous appelles à être, Seigneur. Merci parce que, oui, quand on est né de nouveau, Seigneur, on n'est plus la même personne, Seigneur, et on a besoin d'être renouvelé, Seigneur, par la vérité de ta parole. On a besoin d'être rééduqué, d'être enseigné jusque dans les profondeurs de ce qu'on croit, Seigneur, pour pouvoir être conforme à ce que Jésus a été sur terre, Seigneur. Merci parce que nous voulons tendre, Seigneur, à être comme Jésus, Seigneur. Pas moins, Seigneur. Simplement parce que c'est toi qui nous le demandes, Seigneur. Amen. Alors, ce passage est très très connu et on l'utilise très souvent pour ce qui est du domaine de l'intercession. Vous avez sûrement entendu parler de ce passage au niveau de l'intercession. Et récemment, Dieu a changé mon regard alors que je relisais ce texte. Vous savez, c'est comme s'il y avait une caméra dans ma tête où je voyais l'histoire se dérouler et où l'angle de vue s'est complètement retourné. Parce que le texte, en fait, nous attire naturellement à regarder Moïse, à regarder Aaron et à regarder Hur. Et là, Dieu m'a dit non, eux, on va pas trop les regarder cette fois-ci et on va regarder ceux qui sont partis combattre. Bien sûr, le fait de prier et le fait d'intercéder n'est pas moindre, d'accord ? Je ne veux pas que vous repartiez ce matin en pensant que mon propos est d'amoindrir la prière. Pas du tout. Elle est au contraire de la renforcer, mais de la renforcer peut-être dans un autre sens. Et je crois que d'intercéder et de prier, bien sûr, est très juste. Voilà, ce que je vais essayer de faire, c'est juste d'avoir une autre facette sur la prière et sur ce genre de texte. Et alors, comme je vous ai dit, dans ma tête, la caméra s'est tournée vers ceux qui étaient au front. Et une question a résonné dans ma tête. Et la question, c'était, à quoi servirait Aaron, Hur et Moïse s'il n'y avait personne qui était descendu au front ? Alors j'étais là et puis je disais, mais Seigneur, pourquoi tu me dis ça ? Et je trouvais que c'était assez intéressant de réfléchir à ça. C'était intéressant de porter le regard sur l'importance des personnes dont on parle peu en fait dans la Bible, mais qui ont accompagné tous les grands noms que l'on connaît de la Bible. Nombreux sont ceux qui ont participé aux batailles livrées dans l'Ancien Testament. Très nombreux le peuple qui a combattu. Et certains sont allés jusqu'à sacrifier leur vie pour la cause de Dieu ou pour celle de leur peuple. Dans les chroniques, sous le règne de David, on dénombre, alors il y avait à peu près 3 millions de personnes, ça je ne sais pas, il faudrait voir le théologien là-haut, si c'est les références que j'ai trouvées. Et en tout cas, dans le texte, il est parlé... Vous savez combien il y avait de gens qui portaient les armes sur 3 millions ? Bon, vous doutez que c'est beaucoup. La moitié. 1 570 000 combattants. 1 570 000 combattants. Je trouve que le chiffre est... Waouh ! C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et donc cette question, elle m'a percuté de me dire, mais c'est vrai Seigneur, on parle beaucoup souvent d'une personne, de David, on va parler de Moïse, on va parler, et tout ce peuple-là qui a combattu pour toi. En France, on estime à environ 1 million, un petit peu moins je crois, ou non, ça a augmenté depuis mes chiffres, la population des chrétiens nés de nouveau. Ceux qu'on considère comme réellement convertis suivant le Seigneur. Est-ce qu'on voit 500 000 personnes dans les rues, dans les parcs, dans les centres commerciaux, des fous là, vous savez, qui annoncent l'évangile comme ça, de partout ? Est-ce qu'on voit ça ? J'ai envie qu'on me voie ça, moi. J'ai envie qu'on me voie ça. Je sais que ça fait plusieurs fois où ma prédication est orientée là-dessus, mais je crois qu'il faut qu'on se pousse à ça. Il faut qu'on la France redevienne un pays qui soit un modèle de foi et où on voit des gens complètement fous qui sont dans les rues et qui se battent pour que l'évangile avance. Peut-être qu'on ne le fait pas parce que nous avons dans nos pensées que tout se fait justement par la prière d'intercession. Combien il y a eu de mouvements qui ont véhiculé ça? Nous n'avons pas besoin d'annoncer ou de démontrer l'évangile. Il suffit de prier pour que les gens soient sauvés. Il suffit peut-être de louer le Seigneur plusieurs fois par semaine à l'église ou aller dans un lieu stratégique de la ville et louer, louer, louer. Et puis Dieu va faire les choses lui-même et les choses vont changer d'elles-mêmes. Ou alors on peut aussi se lever tous les matins et puis prier. Seigneur, que le réveil vienne. Hop, et puis je m'en vais. Seigneur, que le réveil vienne. Et le lendemain, Seigneur, que le réveil vienne. Il y a des gens qui ont fait ça pendant des années et des années et des années. Il y a aussi un mouvement de pensée qui dit, où on peut, excusez-moi, j'image un peu, je veux choquer personne ce matin, mais c'est simplement que je veux poser peut-être certains modes de pensée qu'on nous a transmis. On peut aussi penser qu'on n'a rien à faire. Et ça existe. Que Dieu est assez grand pour se débrouiller tout seul, en fait. Et c'est vrai. Et moi, du coup, je peux aller me faire un petit café. Et puis laisser Dieu agir. D'accord? Ce que je voudrais essayer de suggérer ce matin, c'est que peut-être, Dieu utilise les mains de ceux qui se rendent disponibles pour accomplir ses desseins. Amen. Dieu utilise les mains de ceux qui se rendent disponibles pour accomplir ses desseins. Il utilise la bouche, oui, de certains, mais aussi les mains de beaucoup. Sommes-nous prêts à offrir à Dieu nos mains pour qu'il les utilise? J'ai envie de faire retentir cette question dans votre tête. Sommes-nous prêts à offrir à Dieu nos mains pour qu'il les utilise? Et je vous assure, je commence soft. Parce que si... Si on lisait l'Écriture, on a la bénédiction qui arrive. Dans Romains 12, on connaît tous ce verset, il est dit, pas que les mains bien sûr, hein. La Bible nous dit tout le corps. Je vous exhorte donc frères, je crois qu'il y est. Ah, c'est moi. Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Merci pour ceux qui font Alpha, merci pour ceux qui font le Sozo. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut répandre l'évangile avec un zèle qui va être toujours grandissant. Alors ce matin, j'avais envie de demander à ceux qui veulent, est-ce que vous avez envie d'étendre vos mains, mais sincèrement, et de dire à Dieu, ok, voici mes mains, je te les donne, serre-toi-en. Serre-toi-en. Maintenant.
Seigneur, je ne dis pas ça avec crainte ou tremblement, Seigneur, mais avec joie, Seigneur, et amour. Seigneur. Voici mes mains, Seigneur, qu'elles puissent te servir, Seigneur. Être un instrument pour ton royaume, Seigneur, pour ton évangile, Seigneur, pour la cause de ton évangile.
Amen. Merci Serge pour le témoignage que tu es pour nous dans l'Église. Je sais que peut-être tu ne réalises pas, mais tu es un réel témoignage pour nous de partir comme ça et de sacrifier une partie de ta vie quelque part. Familiale et autres, c'est quelque chose de fort et moi ça me touche en tout cas, je tenais à te le dire, merci d'être au milieu de nous et merci de faire ce que tu fais, je sais que c'est pas tous les jours facile, mais en tout cas je crois que c'est vraiment ce que le Seigneur appelle chacun de nous à faire, d'offrir une partie de notre vie en sacrifice et toi tu le fais bien donc merci. La Bible nous dit que nous sommes passés du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Alors, battons-nous pour que ceux que Dieu appelle, pour que les enfants de Dieu viennent avec nous. Battons-nous pour ça. Si on retourne regarder ce Moïse, qui pendant cette bataille s'est simplement tenu sur la montagne pour prier, juste au passage, il avait un petit peu plus de 80 ans quand même. Donc on peut lui accorder le bénéfice de ne pas avoir pris les armes et d'être resté prier. Il a de nombreuses fois été au front, ce Moïse. Face à face avec Pharaon, il n'a pas eu peur. Combien de fois Pharaon aurait pu le jeter au, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, les crocodiles à l'époque ou aux taureaux, je ne sais pas les supplices de l'époque. Mais non, il y est allé et il a tenu face à face. Il était sur le front. Il était même sur le front face au peuple d'Israël qui râlait tout le temps et où il fallait être là et dire non, ce n'est pas ça. Et qu'est-ce qu'il faisait simplement? Il annonçait et il démontrait la vérité de son Dieu. C'était un homme de terrain. Dans Hébreux 11, on voit qu'il est dit qu'il s'est dépouillé de toutes les richesses qui lui avaient été offertes. Vous savez qu'en Égypte, c'était pas n'importe qui quand même. C'était pas n'importe qui. C'était le numéro 2. C'est le premier ministre chez nous. Et il a dit, non, je veux pas. Je veux pas. Je préfère m'identifier au peuple et je préfère aller chercher la rémunération que Dieu va me donner. Dans le Nouveau Testament, il me semble qu'il n'y a que très peu d'exemples de personnes qui se consacraient uniquement à la prière, sans être les instruments directs que Dieu utilise. Alors après, vous pouvez m'aider, mais il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un qui me revient, c'est Anne, je crois, qui priait et jeûnait continuellement dans le temple. Après, tous les exemples que j'ai, en fait, oui, c'était des hommes de prière et l'apôtre Paul, et Jésus lui-même, étaient des grands hommes de prière. Mais quand ils priaient, ils allaient. Ils priaient, j'ai envie de dire, parce qu'ils allaient. Ils ne priaient pas en attendant, d'accord ? Et je pense que dès l'époque des apôtres, il y avait des chrétiens qui avaient cette tendance à « on est bien chez nous, on est bien dans notre famille, à rester ». Dans la famille. Et c'est pour ça que Jacques, après, va écrire « Mais non, mais la foi sans les œuvres, c'est mort, ça ne sert à rien. Enfin, il faut aller plus loin. Vous n'avez pas compris le message, en fait. Vous n'avez pas compris le message. Si vous n'allez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, en fait. » Donc, bien sûr, c'est sans pression, et je ne suis pas en train de, de vous mettre une pression forte. On est simplement ensemble en train de parcourir les Écritures et d'essayer de se laisser changer, en fait. Donc là, vous n'allez pas m'aimer, mais... Cependant, Jésus nous demande de prier. Je le redis. Cependant, Jésus nous demande de prier. Donc je ne suis pas... Je fais pas la contradiction de mon message. Mais juste, je voudrais nous encourager à prier la prière que Jésus a priée. Ouh, ça fait beaucoup de prier, ça. On va prendre Matthieu 9. Verset 35. Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie, toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jésus nous demande d'orienter nos prières sur la moisson, sur la progression de l'évangile et du royaume de Dieu au milieu de nous. Le règne de Dieu, comme au ciel, sur la terre, était, à mon avis, un thème central dans la prière de Jésus. Central. Si vous voulez vous amuser à aller relire la prière sacerdotale, sale, je ne sais jamais comment on dit, relisez-la et vous allez voir que c'est centré C'est centré sur le royaume. C'est centré sur « Je suis venu pour les sauver ». C'est centré sur « Comme tu m'as envoyé, je les envoie ». Ayant compassion de ceux qui sont dans les ténèbres et connaissant très bien les difficultés par lesquelles les moissonneurs vont devoir passer, Jésus sait qu'on a besoin d'être stimulé fortement. On n'a pas besoin de venir vers soi et de dire « Bon, Pierre, si tu veux, si entre ton travail, ta famille, je ne sais pas, tout ce que tu fais, tu as 5 minutes ». Ben, peut-être tu peux aller annoncer la bonne nouvelle. C'est pas ça. Je crois Jésus fait pas ça. Il a jamais fait d'ailleurs. Il a choqué souvent même ses disciples par ses attitudes. Parce que pour Jésus, il y a quelque chose d'urgent. Il y a quelque chose de plus important que nos vies quotidiennes et que l'homme en fait en soi. C'est l'évangile. C'est l'évangile. D'ailleurs, Jésus a offert sa vie à l'évangile. Donc on a besoin d'être stimulé fortement. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, pas tous encore? Il y en a qui savent ce que je vais dire après, alors c'est pour ça qu'ils... Naturellement, les hommes trouveront toutes sortes d'excuses. Moi, le premier. On en trouvera toutes, plein, pour ne pas aller sur le champ. Serge, c'est un aumônier militaire, pardon, pour ceux qui ne sont pas de l'église, c'est peut-être intéressant de le préciser. Vous croyez qu'il n'avait pas des milliards d'excuses pour rester avec sa femme, avec ses enfants, pour les voir grandir? Vous pensez qu'il n'en avait pas? Il en avait plein. Pourtant, il a dit non, moi j'y vais, parce que je crois que c'est ce que Dieu a déposé pour moi. On n'a pas besoin de se forcer pour en trouver. Mais Jésus insiste dans ce texte. Et il dit « La moisson est grande. » Elle est grande et il y a peu d'ouvriers. D'accord ? Elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et peut-être dans notre église en France, en ce moment, on a des gens qui veulent être des Moïse et des Aaron ou des Hur sur la montagne. Mais on n'a pas beaucoup de gens qui sont en bas, dans la vallée. Richard me disait que le nom de la vallée, ça voulait dire baisser les bras, c'est ça? Il n'y a personne qui a envie d'aller dans la vallée où je... baisser les bras. Un sacré nom, celle-là. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'aller là-bas. Parce que je sais que peut-être je vais devoir baisser les bras. Et j'ai envie de retrouver ça. Et que déjà, dans notre église, nous vivions ça. Nous vivions ça. Nous ayons envie de ne pas baisser les bras. C'est pour ça que, vous avez vu, j'ai mis « envoyé » en rouge dans le texte. Et alors, quand on va chercher en grec, c'est très, très intéressant. Jésus, je veux juste revenir avant de donner la traduction. C'est « ekbalo » en grec. Mais il est dit « il fut ému de compassion ». Jésus était ému de compassion. Dans ce texte, on sent qu'il en avait gros sur le cœur. Que quand Jésus a demandé de prier ça, c'était pas d'une manière paisible ou sans émotion. C'était ses tripes là qui parlaient. C'était les tripes de Jésus qui ont parlé. Il a dit « Priez le Père, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Alors je vous lis ce que veut dire « ekbalo ». Peut-être qu'il y en a qui le savent déjà. Ça veut dire jeter dehors, chasser dehors, renvoyer. Ça veut dire contraindre quelqu'un à partir. Ça veut dire lui ordonner de partir. Ça veut dire emmener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister. Bon, on en rigole, mais j'aimerais quand même qu'on se laisse interpeller par la profondeur du texte et de ce que Jésus dit là. On sait très bien que Jésus est le bon berger, qu'il nous aime d'un amour mais indescriptible. Et ce n'est pas un père fouettard qui est en train de parler là. C'est celui qui nous aime, le plus profond de son cœur, qui dit ça. Il dit, priez donc le maître de la moisson, d'envoyer, mais pas d'envoyer, allez si tu veux, tu peux y aller. Non, vas-y. On est allé aux champignons avec Pierre là, la semaine dernière, et toute la famille de Vogel. Et j'ai attrapé un bouquin là-haut, c'était sur les complaintes des pasteurs du désert. Je ne sais pas si tu l'as lu, Nicolas. J'avais jamais lu un livre, il fait 100 pages, en une après-midi, là je l'ai lu. Tellement c'était poignant, c'était fort. Ces pasteurs qui ont sacrifié leur vie, qui ont donné leur vie pour que l'évangile soit annoncé. Il y en avait un, il avait 27 ans. 27 ans. Et il a été tué. Juste parce qu'il annonçait l'évangile. Et ça m'a fait du bien, ça m'a bouleversé. Vous savez, c'est chez nous, hein, l'histoire des pasteurs du désert, musée du désert. C'est les Cévennes, c'est Alès, c'est Anduze, et puis c'est tout ce qu'il y a au-dessus, là. C'est pas, voilà, on ne parle pas de notre pays, on ne parle pas d'une autre région de France, on parle de chez nous. Eh bien, il y a quelques siècles, il y a des gens qui avaient ce zèle pour l'évangile, de dire, ok, ma vie, pas d'importance. Ce qui est important, c'est que j'annonce. Et ils ont tenu ferme jusqu'au bout. Dans les complaintes, là, dans les textes, ils disaient que souvent, avant de les amener à leur condamnation, il y avait 2, 3, 4 personnes de l'Église catholique qui venaient et qui leur disaient « Allez, c'est pas grave, moi aussi je suis chrétien, laisse tomber ta religion, reviens à la vraie religion qui était le catholicisme, et puis voilà, ta vie sera sauve. » Je sais pas si vous imaginez la psychologie qui peut y avoir derrière. C'est des gens qui savaient qu'ils y allaient, quoi. C'était le lendemain. Et vous avez ces personnes qui, soi-disant chrétiennes, venaient et leur disaient « Allez, renie, renonce, là. Ça sert à rien, ça. Parce que tu es dans l'erreur, de toute façon. » Et donc, il y en a un, il avait 27 ans. On ne peut pas dire qu'il avait de la bouteille. Et ils n'avaient même pas une longue connaissance de la Bible. La plupart, je crois, avaient un évangile et les psaumes. Souvent, c'était ça qui était distribué, qui était répandu et qu'ils lisaient. Ils avaient un évangile et les psaumes. Bon, certes, ils les connaissaient par cœur. et d'ailleurs, il y en a un qui a chanté le psaume 51. Si vous voulez le relire chez vous, ça m'a touché dans cette optique-là. Au moment où il allait être tué, il chantait le psaume 51. Quoi. C'était... Enfin, voilà. Tout ça pour dire que oui, tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des gens qui se sont levés. Il y a eu des gens qui ont eu cette compassion des foules et qui ont eu le cœur tellement brisé par l'importance du message de l'Évangile qui ont été prêts à aller jusqu'au bout pour annoncer et pour servir l'Évangile. Jésus, je te prie, Seigneur, que ton cri, Seigneur, la prière de ton cœur, Seigneur, puisse nous toucher, Seigneur, encore plus en profondeur, Seigneur. Merci pour tout ce qui se fait déjà dans l'Église, Seigneur, et qui permet l'annonce de l'Évangile, Seigneur. Mais je prie pour plus, Seigneur, plus de consécration, Seigneur, à ton Évangile, Seigneur, à l'Évangile de la vérité, Seigneur. Je prie pour plus d'amour, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Je te prie qu'on puisse voir, Seigneur, cette détresse de ceux qui nous entourent, Seigneur, de ceux qui sont dans les ténèbres, afin qu'on puisse leur annoncer que la lumière s'approche. Amen, Jésus. Je vais terminer par rappeler en fait que Dieu nous envoie avec sa force et sa puissance. Il sait quelle est la guerre spirituelle qui a lieu. Et c'est pourquoi il nous équipe avec tout ce dont on a besoin. Quand on revient au texte de Moïse, Dieu avait envoyé Moïse au-dessus avec le bâton. Le bâton qui avait accompli tous les miracles que le peuple avait vus précédemment. Et Moïse a, oui, levé les mains, mais il a brandi. Il a brandi la puissance de Dieu au-dessus du peuple qui était en bas en train de combattre. Dieu envoie sa puissance quand nous nous mettons en marche. Dans Matthieu 10, il est dit « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. » Amen. Il nous a déjà tout donné, en fait, pour que nous puissions faire cela. Je sais qu'il existe une réelle tension et une lutte intérieure en chacun de nous, et moi le premier, quand nous décidons d'annoncer l'évangile ou simplement de démontrer la présence du royaume de Dieu. Quand on va prier dans les rues pour guérir les malades, il y a une tension qui est là. C'est pas facile, on n'est pas forcément à l'aise à faire ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas naturel, ce n'est pas inscrit dans notre chair. De pouvoir faire ça. C'est dans notre esprit que nous allons trouver cette volonté-là. Mais la difficulté que l'on rencontre n'est pas une excuse. Ça, j'aimerais juste le répéter. La difficulté que l'on rencontre n'est pas une excuse. Car Dieu promet de nous accompagner dans toutes les difficultés que l'on va rencontrer. Mes amis, oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Pour moi, le premier, je le reconnais. Et je le dis, c'est difficile d'aller porter l'évangile. C'est pas quelque chose de naturel et de facile. Mais non, ça n'est pas une excuse suffisante pour ne pas le faire. Parce que il y a un peuple à sauver. Parce qu'il y a un évangile à annoncer. Jésus nous le dit. Ah, ça c'était Ballot. Et ne nous le cache pas. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Il aurait pu choisir d'autres métaphores quand même. « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Mais, d'accord, il n'a pas caché Jésus, hein ? Il n'a pas dit « ça va être sympa, ça va être du tourisme, vous allez aller à l'île Maurice, vous allez faire de la planche à voile ». Il n'a pas dit ça, hein ? Il n'a pas dit ça. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit juste au disciple d'être traité comme son maître. Amen. Qui c'est qui va être traité comme Jésus ? Et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, vous vous souvenez, ils ont traité Jésus de chassé par l'esprit de Satan, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Mais Jésus répète, ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, ce que je vous ai dit là, discretos, ils nous ont pas vus. Là-bas, ils nous ont pas vus. Dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille. Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Prêchez-le sur les toits. Amen. On va sur les toits de Nîmes ? Prêchez-le sur les toits. Amen. Voilà, laissons-nous percuter par ce que la Bible nous dit. Soyez fous. Oups, je suis en train de perdre ma voix. Soyez fous. Soyez fous pour annoncer l'évangile. Soyez fous, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, parce que je suis avec vous. Voilà, j'ai mis courage, les amis. Soyons zélés pour l'évangile. Et si vous voulez bien, amen. Éphésiens 6, 15. Ah non. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dans 1 Pierre 2, il est dit, vous au contraire, vous êtes qui ? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ouh, il y va Pierre là, il lance des fleurs. Vous imaginez ce qui est dit là ? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu pour annoncer l'évangile. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen, Jésus. Hop, on va juste terminer en priant. Peut-être l'équipe de louanges.